Il est 19h, le journal avec vous, Alexandre Lemaire, bonsoir.
Bonsoir Anthony, bonsoir à tous.
Dans un instant, nous serons à Uvalde, cette petite ville du Texas, endeuillée par la tuerie de son école primaire. Des centaines d'Américains continuent d'affluer.
Tradition présidentielle pour le pont de l'Ascension. Emmanuel Macron passe le week-end à Brégançon. Repos et travail. Elisabeth Borne, elle, était dans le Loiret sur le thème de la sécheresse. Un séisme dans le monde de la culture. L'ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, a été mis en examen dans une affaire de trafic d'antiquités égyptiennes. Et puis la vie trépidante du King fait vibrer la croisette. Le biopic Elvis du cinéaste Baz Luhrmann, présenté hors compétition à Cannes. Un show de son et d'images de 2h40 tout de même.
Et ça donne envie. La tendance météo avec Valérie Darmon.
Nombreux nuages au nord le matin avec de rares gouttes possibles avant une belle amélioration dès la mi-journée. Pour le reste, c'est une très belle journée qui s'annonce sous des maximales en hausse.
Europe 1.
L'émotion toujours vive et la colère monte aux États-Unis après le massacre de l'école primaire d'Uvalde.
Oui, des centaines d'Américains font le voyage pour cette petite ville du Texas où 19 enfants et 2 enseignants ont été tués au fusil d'assaut dans leur salle de classe. Des anonymes qui viennent se recueillir devant l'école primaire Robb à Uvalde au Texas. Reportage à Viva Fried.
Les oiseaux qui chantent aux abords de l'école d'Uvalde ne suffisent pas à faire oublier la tragédie. 21 petites croix blanches ont été plantées ici. Chacune d'elles porte le nom d'une des victimes abattues il y a 2 jours. Martine Quiroz est venue apporter un petit bouquet de fleurs violettes qu'il dépose sur la pile de fleurs et de ballons qui s'amoncellent devant l'entrée. Sur l'une des croix, le nom d'un membre de sa famille.
C'était mon petit cousin. La douleur, la souffrance. Il n'y a rien qu'on puisse dire pour trouver du réconfort.
Annabelle Raïs, elle, est venue spécialement du Mexique à environ 150 km d'Uvalde. Elle n'arrive pas à contenir ses larmes et regarde sans cesse ses 2 filles qui l'accompagnent.
Moi aussi j'ai 2 filles. J'ai vraiment beaucoup de peine, il n'y a pas de mots.
À quelques pas de là, vêtue d'une veste vert pomme, un chien Shetland se laisse caresser par ceux qui en ont besoin. Indigo Moon et sa maîtresse Linda apportent leur soutien aux victimes et aux premiers secours.
On a travaillé avec les familles, avec des enfants. Parfois les enfants parlent aux chiens et ça leur permet de se détendre.
2 jours après le massacre, Uvalde reste toujours sonné par le drame. Et personne ne peut dire combien de temps il faudra pour réussir à tourner la page. À Uvalde, à Viva Fried, Europe 1.
Retour en France, c'est devenu pour lui une tradition. Emmanuel Macron est arrivé au fort de Brégançon pour le week-end de l'Ascension.
Oui, une résidence présidentielle à l'abri des regards indiscrets sur la Côte d'Azur, très fréquentée pour ce pont de l'Ascension. De nombreux promeneurs qui profitent eux aussi de ce long week-end ont tenté d'apercevoir le président Frédéric Michel. Mais le chef de l'État fait savoir qu'il est aussi au travail.
Oui, un séjour de repos et de travail. Emmanuel Macron s'est entretenu à la mi-journée avec le président turc de son bureau situé au 2e étage du fort. Il peut à tout moment, de manière sécurisée, passer des appels téléphoniques, organiser des visioconférences. De ce bureau qui jouxte la chambre présidentielle, il voit également la mer et la plage où quelques curieux tentent aussi de l'apercevoir. Robert, un habitué des lieux.
Quand il est là, il y a une recrudescence quand même de spectateurs, n'est-ce pas ? En plus, c'est le seul pont qu'il y a de 4 jours, donc c'est bien. Je pense qu'il va y avoir du monde. Le temps est avec nous.
Depuis son premier mandat, le chef de l'État a pris pour habitude de passer ce long week-end de l'Ascension au fort de Brégançon. Jean-Pierre est venu en voisin profiter de la plage.
Moi, je ferais comme lui. Hein. On profite du sud. Quand on est parisien, on veut venir ici. Ah, on est bien. Comme vous voyez, quand on est dans l'eau, on regarde derrière. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de maison. Ah, c'est magnifique. Là.
Quelques jours au soleil, loin de l'Élysée, Michel approuve.
Ça ne nous embête pas plus que ça. On peut prendre 2-3 jours de vacances quand même. Ça va peut-être lui faire du bien aussi. À lui. Autant utiliser les locaux quand même, hein, qu'on ne paye pas des impôts pour rien.
Le président est arrivé en toute discrétion hier soir. Il n'a pas été vu, ni la première dame d'ailleurs. Mais à la mi-journée, un grand bouquet de fleurs blanches a été livré au fort.
Frédéric Michel, au pied du fort de Brégançon, où le chef de l'État brise la glace d'ailleurs avec l'Australie après l'affaire des sous-marins. Emmanuel Macron et le Premier ministre australien ont échangé au téléphone. Ils veulent rebâtir une relation de confiance.
De son côté, elle est loin du littoral. Elisabeth Borne était cet après-midi dans le Loiret pour parler de la sécheresse.
Une sécheresse précoce après un mois de mai particulièrement sec et qui inquiète le monde agricole. À un peu plus de 2 semaines des législatives, la Première ministre s'est donc rendue sur une exploitation à Sandillon, aux portes d'Orléans, en bordure d'un champ de céréales. Elisabeth Borne a voulu assurer les agriculteurs du soutien de son gouvernement.
Ça arrive la sécheresse, mais ça revient avec le dérèglement climatique beaucoup plus fréquemment que par le passé. Donc mon gouvernement est au travail pour gérer notre ressource en eau et éviter que la situation ne soit vraiment critique cet été, pour aider aussi financièrement les agriculteurs, les éleveurs qui seront les plus touchés, et puis pour anticiper, pour adapter nos modes de production pour les rendre moins vulnérables demain sur les prochaines sécheresses et puis plus largement pour s'adapter au dérèglement climatique.
Elisabeth Borne en déplacement ce jeudi dans le Loiret. Dans l'est de l'Ukraine, les combats ont atteint une intensité maximale selon Kiev. À Kharkiv, deuxième ville du pays, 4 personnes sont mortes dans des bombardements russes. Et puis à Mariupol, les écoliers privés de vacances d'été. La ville est tombée aux mains de la Russie qui a décidé de supprimer les grandes vacances pour préparer les élèves ukrainiens au programme scolaire russe, selon la mairie de Mariupol.
Dans le reste de l'actualité, l'ancien patron du Louvre est soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'œuvres antiques.
Jean-Luc Martinez a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée au terme d'une garde à vue de 48 heures. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir participé de près ou de loin à un trafic d'œuvres d'art de l'antiquité égyptienne, Gladys Laffitte.
Oui, en fait, Jean-Luc Martinez est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur l'origine illégale de 5 pièces antiques égyptiennes achetées par le Louvre Abu Dhabi, dont une très connue, une stèle en granit rose de Toutankhamon. On parle là d'œuvres qui ont été achetées plusieurs dizaines de millions d'euros par le musée, alors que leur provenance est au minimum douteuse et que de faux certificats d'origine ont été fournis. C'est ce que reprochent les enquêteurs à l'ex-directeur du Louvre d'avoir eu connaissance de ces faux documents et d'avoir quand même acheté les pièces. Cette mise en examen n'est pas la première dans ce dossier tentaculaire de trafic d'antiquités qui concerne aussi un autre grand musée à l'étranger. Des œuvres pillées dans des pays instables comme l'Égypte ou le Yémen, revendues ensuite une fois gommées leur provenance illégale. 3 personnes sont soupçonnées d'avoir blanchi des antiquités. L'enquête devra déterminer les conditions précises d'acquisition des œuvres concernées par le Louvre Abu Dhabi. De son côté, Jean-Luc Martinez conteste fermement sa mise en cause dans cette affaire.
Gladys Laffitte. Un nouvel épisode du Partygate. Boris Johnson présente ses excuses aux agents de sécurité et de nettoyage de Downing Street. L'enquête publiée hier révèle qu'on leur a manqué de respect pendant les fêtes organisées en plein confinement dans la résidence du Premier ministre britannique. Du vin rouge renversé à éponger et des comportements déplacés des fêtards sur fond d'alcoolisation excessive. Kevin Spacey, inculpé de 4 agressions sexuelles contre 3 hommes au Royaume-Uni. La star américaine va faire l'objet de poursuites pénales. Les faits reprochés remontent à 2015 à 2013. Kevin Spacey visé dans une enquête depuis des plaintes pour violences sexuelles dans le quartier londonien du théâtre dont il était à l'époque le directeur artistique. Et puis on apprend ce soir la mort de Ray Liotta, mythique acteur américain, une gueule de cinéma. Il avait été la tête d'affiche des Affranchis, le grand film de mafieux de Martin Scorsese. Ray Liotta est mort dans son sommeil pendant un tournage. Il avait 67 ans.
Alexandre Lemaire, on part maintenant du côté du Festival de Cannes.
Elvis Presley qui revient à la vie sur la croisette avec son biopic. Baz Luhrmann, réalisateur déjà de Moulin Rouge, livre une fresque de 2h40 présentée hors compétition. C'était l'un des films les plus attendus.
Je vais vous montrer qui est le véritable Elvis ce soir.
You're looking for trouble? You came to the right place.
Elvis, le biopic avec la patte Baz Luhrmann, Marie Jiquel, est-ce que c'est un mariage réussi?
Eh ben oui, c'est un mariage évident. Prenez Elvis, sa voix, son style très reconnaissable, ses costumes excentriques, ses déhanchés, et puis son histoire de rockstar presque banale, mais avec un fort ressort dramatique, une ascension fulgurante, des zones troubles, des comportements toxiques. Et puis Alexandre, prenez Baz Luhrmann, son esthétique flamboyante, foisonnante. Vous vous souvenez des scènes de fête hein, dans Gatsby le Magnifique? Eh bien, cela donne un biopic original, énergique et réussi, concentré sur la relation malsaine entre le chanteur mythique, joué par un jeune acteur et chanteur peu connu, Austin Butler, et son manager, interprété par Tom Hanks.
L'autre événement.
Si vous ne m'écoutez pas, tous les sacrifices que votre maman a faits auront été vains. Croyez-moi.
L'autre événement ce soir donc à Cannes, Marie, c'est la projection de Salam, le documentaire de Diams.
Et oui, Diams qui nous donne des nouvelles, et c'est rare, hein, l'ancienne rappeuse sera absente de Cannes, mais elle suit ça de près, un film confession sur sa rupture avec l'industrie musicale, sa dépression et sa nouvelle vie très loin de la France, aux Émirats Arabes Unis.
Marie Jiquel, merci Marie, sortie du biopic Elvis le 22 juin prochain en salle.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Et c'est une belle journée aujourd'hui pour les Français à Roland-Garros.
Et c'est d'abord Gilles Simon qui affronte en ce moment l'Américain Steve Johnson. Cédric Chasseur, le Français a remporté les deux premiers sets.
Ah, il s'inscrit complètement dans cette belle journée pour le tennis français. Il est au service, Gilles Simon. Il a remporté la première manche face à Steve Johnson, l'Américain, le 92e joueur mondial, 7 jeux à 5. Il a ensuite déroulé dans la deuxième manche 6 jeux à 1 et il mène 5-4 sur son service, Gilles Simon. Il est en train, vous l'avez compris, dans ce jeu de servir pour remporter ce match en 3-7. Et on joue depuis un peu plus de 2 heures. C'est beaucoup plus court que le match du premier tour qu'il a fait en plus de 4 heures au bout de la nuit mardi dernier. Là, il est en forme, Gilles Simon. Il a repris des couleurs et il est vraiment dans un très très bon jour. 15 à dans ce jeu, 5-4 donc pour Gilles Simon qui est à 3 points du match désormais.
Cédric Chasseur en direct de Roland-Garros pour Europe 1.
Et il y a aussi du foot ce soir, match de barrage entre Auxerre et Saint-Etienne.
Oui, la Auxerre 3ème de Ligue 2 qui doit disputer 3 matchs de barrage pour retrouver la cour des grands. Les Auxerrois qui reçoivent ce soir Saint-Etienne 18ème de Ligue 1 en barrage aller, en direct du stade de la Baie-des-Champs. Gérard Delorme, Gérard, ça joue depuis quelques minutes maintenant.
Oui, ça joue depuis 11 minutes ici au stade de la Baie-des-Champs, toujours 0-0, un stade chaud bouillant avec ces 18 000 spectateurs qui sont derrière leur équipe depuis 3 matchs maintenant, parce que l'objectif, bien évidemment, au terme de ces deux rencontres, eh bien, c'est essayer de retrouver la Ligue 1. Mais en face, l'équipe de Saint-Étienne, bien entendu, va défendre sa place dans cette situation, même s'ils reviennent de loin, les Stéphanois. Ben, attention, le match est très engagé ici entre les deux équipes avec des Auxerrois à l'attaque. Mais on a vu une belle occasion sur un contre avec Bonga qui a mis le ballon au-dessus des buts de Léon tout à l'heure. Donc le match est très ouvert ici. Un bel engagement des deux côtés, mais le public auxerrois va pousser son équipe. Attention, là, peut-être une erreur de Arcus qui a failli profiter au Stéphanois. Mais le match est véritablement bien engagé ici. Toujours pas de but, mais ça va venir.
Merci Gérard Delorme, en direct d'Auxerre pour Europe 1.
Et on est toujours avec Valérie Darmon pour la météo. Quelques averses demain, Valérie, sur les Alpes, ce sera plus ou moins nuageux ailleurs.
Effectivement, les nuages qui sont nombreux en matinée sur un petit tiers nord et dans le sud-ouest. Entre Brest et Metz, vous pouvez connaître de vagues ondées ici ou là. Dans la soirée, le temps y est plus agréable avec un ciel qui se dégage. Au sud de la Garonne, les éclaircies ont aussi un peu de mal à s'imposer. En revanche, du nord de l'Aquitaine au centre jusqu'au golfe du Lion, les passages nuageux de la matinée laissent place au plein soleil. Mistral et Tramontane restent sensibles dans leur domaine avec des rafales jusqu'à 80 km/h. La Côte d'Azur reste orageuse dans l'après-midi, dans l'arrière-pays, et un petit peu pluvieux sur les plages. Du côté des températures, elles recommencent à monter un petit peu et elles affichent 16 à 19 sur le littoral de la Manche et au même moment 20 à 26 ailleurs, voire 32 dans le sud-est.
Et merci à vous Valérie Darmon, merci également à Alexandre Lemaire pour le journal de 19h. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Les débats de Punchline continuent avec Gilles Mantré, essayiste, et Victor Chabert, journaliste politique à Europe 1.
Europe 1, 18h-20h, Punchline, Anthony Favalli.